France Culture.
Tous les mercredis, entendez-vous l'écho ouvre son dictionnaire pour comprendre l'histoire et les enjeux d'une notion. Et aujourd'hui, c'est un mécanisme particulièrement décrié que nous allons nous intéresser, celui de la taxe carbone.
Édouard Philippe, le 4 décembre 2018.
Trois mesures fiscales devaient entrer en vigueur le 1er janvier prochain. La hausse de la taxe carbone sur l'essence, le fioul et le diesel, la convergence de la fiscalité du diesel avec celle de l'essence, et enfin, pour les professionnels, l'alignement sur la fiscalité des particuliers, de la fiscalité du gazole, des entrepreneurs non routiers, ce que l'on appelle le GNR. Je suspends pour une durée de 6 mois ces mesures fiscales. Elles ne s'appliqueront pas avant d'être débattues par toutes les parties prenantes. Mais aucune taxe ne mérite de mettre en danger l'unité de la nation.
Marc Carnet, le 31 décembre 2024.
En tant que chef, je vais annuler la taxe sur le carbone et, à la place, créer un système d'incitatif pour récompenser les Canadiens et Canadiennes qui font des choix éco-responsables. Vous n'allez plus devoir payer plus pour faire le plein ou pour chauffer votre maison. En choisissant d'acheter une électro qui consomme moins, un véhicule électrique ou mieux isoler une maison, vous serez récompensé. Et nous allons faire payer les grands pollueurs.
Aucune taxe ne mérite de mettre en danger l'unité de la nation. Comment la taxe carbone en est-elle venue à incarner une menace aussi capitale aux yeux d'Édouard Philippe, alors Premier ministre ? L'idée de cette menace ne concerne d'ailleurs pas que la France. Dans le contexte très spécifique du mouvement des Gilets jaunes, le nouveau Premier ministre canadien, en poste depuis quelques semaines à peine, Marc Carnet, en a fait une promesse de campagne devenue depuis le 1er avril, hier donc réalité. Le volet de la taxe carbone qui concernait les ménages canadiens est désormais supprimé, sauf dans la province du Québec, en réponse notamment à un mécontentement grandissant ces derniers mois de la part toujours plus importante de la population qui réclamait sa tête derrière le slogan « Axe the tax », supprimer la taxe. Une taxe particulièrement impopulaire donc, qui pourtant partait d'un principe plutôt vertueux, présenté comme un impôt sur la pollution. Elle est censée désinciter l'émission de gaz à effet de serre. Alors pourquoi les économistes et les pouvoirs publics ont-ils estimé que l'outil fiscal serait le plus adapté pour modifier les comportements ? Et pourquoi progressivement, cette taxe carbone n'a plus été associée qu'à un mécanisme injuste, voire frauduleux, son nom étant associé à l'une des plus grandes escroqueries de ces dernières années, dont l'une des figures emblématiques, Marco Mouli, a été arrêtée il y a 3 jours. La confusion règne autour de ce qui est appelé tantôt une taxe, qui a le rôle d'un impôt et est présentée officiellement comme une contribution. Alors pour faire le tri dans toutes ces étiquettes qui collent à la peau de la taxe carbone, on remonte l'histoire et on revient au fondement théorique de cette mesure, qui raconte en creux la façon dont questions environnementales et réalités économiques et sociales peuvent ou pas s'adapter l'une à l'autre. Dans cette émission, préparée et programmée par Anouk Milliot, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde par Anthony Thomasson. Et deux invités sont avec nous aujourd'hui. Mireille Chirolleux-Assouline, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure d'économie à la Paris School of Economics et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes également membre de l'Institut Universitaire de France et vous êtes l'autrice d'un ouvrage paru l'année dernière aux presses de Sciences Po intitulé « L'emploi et la transition énergétique ». Je renvoie les auditeurs, les auditrices à une autre émission l'année dernière où vous étiez venus nous en parler plus spécifiquement. Frédéric Reynès, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint du département économie et environnement à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Alors nous avons parlé du Canada, de la France. Selon l'Institute for Climate Economics, au 1er août 2023, 74 mécanismes de tarification carbone ont été recensés à travers le monde, 31 à l'échelle provinciale, 42 à l'échelle nationale. Alors derrière ces mécanismes de tarification carbone, il y a les taxes carbone et le système d'échange de quotas d'émissions. Il y a là une première distinction à faire. Frédéric Reynès, quelle est la spécificité de la taxe carbone ? Pourquoi il ne faut pas la confondre justement avec le marché carbone ?
Alors, ces deux mécanismes peuvent être rassemblés sous le terme de prix du carbone, un peu. C'est deux prix du carbone différents. La taxe carbone, en fait, elle taxe la quantité d'émissions d'un produit. Alors que le marché d'échange de quotas, c'est en fait, on fixe un quota. Et on impose que le prix va être librement déterminé de façon à ce que les quotas soient respectés. Donc en fait, ils ont une optique, les deux visent à diminuer les émissions, mais ils ont deux résultats un peu différents, dans le sens que avec la taxe carbone, on sait exactement son prix, puisque c'est fixé par le législateur, alors qu'avec le marché de quotas, mais on ne sait pas le résultat, parce que ça va dépendre des comportements des agents vis-à-vis de ce prix. Par contre, avec le marché de quotas, qui est souvent pour un secteur, on connaît le résultat, puisqu'on met une limite maximum, mais on ne connaît pas le prix qui va être atteint, parce que c'est le marché qui va déterminer ce prix.
Donc on l'entend, il y a une forme de point commun qui est quand même celle de cette ambition d'avoir donné un prix, de vouloir quantifier aussi en termes de monnaie presque sonnante et trébuchante ces fameuses émissions de carbone. Et on voit que les deux mécanismes ne se répondent pas tout à fait, ne correspondent pas tout à fait à la même logique. À cet égard, je mentionnais à l'instant l'arrestation ce lundi de Marco Mouli, pilier du système d'escroquerie dit justement de la taxe carbone qui avait fait couler beaucoup d'encre et notamment celle du journaliste Fabrice Herfi qui avait publié en 2018 un ouvrage enquête sur cette arnaque et qui avait donné lieu à une série qui reprenait le titre de l'ouvrage « D'argent et de sang » réalisé par Xavier Giannoli.
Je savais pas qu'il y avait une bourse du carbone. C'est plus quoi inventer les gars.
Ouais. Alors, c'est un nouveau marché financier où les entreprises peuvent acheter et revendre des droits à polluer. Voilà. Des quotas carbone, ils appellent ça. Tu t'y connais en TVA ?
Elles vendent quoi officiellement, ces sociétés ?
Pompes à chaleur, éoliennes, et elles font aussi du trade de quotas carbone.
Du quoi ?
Des droits à polluer. C'est des quotas qu'on peut vendre ou acheter sur le marché du carbone. Tous les ans, l'État attribue des quotas de CO2 aux entreprises polluantes, et si on pollue plus que prévu, on doit acheter des droits à polluer, des quotas.
Et n'importe qui peut acheter ou vendre ces droits à polluer ? Même des particuliers ?
Marco Mouli, donc récemment arrêté, et ses comparses ont fraudé le système du marché carbone et des droits à polluer via un détournement de la TVA. Mais on est d'accord, Mireille Chirolu-Assouline, cela ne touche pas directement la taxe carbone en soi. Quand on dit que c'est une escroquerie à la taxe carbone, c'est une forme d'abus de langage.
Oui, tout à fait, parce que c'est en fait une fraude à la TVA. C'était une fraude à la TVA sur les échanges de quotas d'émissions, sur les quotas de carbone. Et d'ailleurs, dans l'extrait que vous avez passé, c'est intéressant, parce qu'il y a à la fois le terme de droit à polluer et le terme de quota de carbone qui est utilisé. Et en fait, le terme de droit à polluer laisse penser au public qu'on donne un droit supplémentaire aux entreprises, aux pollueurs, alors qu'en fait, c'est la notion de quota qui est pertinente, c'est-à-dire qu'on rationne les entreprises. C'est ce qu'expliquait Frédéric Reynès tout à l'heure.
Et peut-être que la confusion vient aussi du fait que lorsqu'on dépasse ce quota, il y a un système de marché, et donc forcément une offre, une demande, et donc l'idée d'acheter une forme de droit à polluer. C'est peut-être de là d'où vient la confusion, Frédéric Reynès.
La confusion vient aussi peut-être du fait qu'on a des fois alloué des quotas gratuits, et donc pour lesquels on n'a pas payé. Et c'était les quotas qu'on voulait supplémentaires pour dépasser les quotas gratuits qui faisaient qu'on devait vraiment payer. Sachant que même certains, cette idée d'avoir des quotas gratuits, c'était pour faciliter la mise en œuvre au début, mais ça permettait aussi à certaines entreprises de revendre des choses qu'elles avaient reçues gratuitement. Donc j'imagine que cette confusion vient peut-être aussi de là.
Et de fait, ça se concerne spécifiquement ce marché-là. Mireille Chirolu Assouline, peut-être pour revenir aussi à notre objet initial qui est celui de fait de la taxe carbone. Et on a bien compris désormais qu'il ne fallait pas le confondre avec ce fameux marché, même si les mécanismes sont quelque part un peu liés. Au-delà des spécificités propres à chaque pays, on va revenir évidemment sur le cas de la France et la façon dont cette taxe carbone a été mise en place très progressivement en France. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer comment fonctionne cette taxe ? Est-ce qu'il y a un principe qui vaut pour l'intégralité des pays ? Très concrètement, comment cela fonctionne ? Est-ce que c'est, on va dire, une forme de taxe a posteriori ? C'est une fois que l'émission a lieu, on va dire, au moment de l'achat, on va dire aussi de carburant ou en tout cas d'actifs, on va dire, particulièrement polluants. Quel est le principe même de cette taxe ? Qu'est-ce qu'elle vient taxer ?
Alors, le principe de cette taxe, c'est qu'elle s'applique directement à la pollution qui est visée, c'est-à-dire aux émissions de carbone. Sauf que on n'attend pas que le carbone soit émis, mais on sait exactement mesurer la quantité de carbone qui sera émise en fonction de la consommation des différentes énergies fossiles. Donc on le sait exactement parce que dans l'essence, dans le fuel, ce qui se passe, c'est que le carburant ou le combustible est composé de produits carbonés, donc de molécules dans lesquelles il y a des atomes de carbone. Et on sait que pour tout atome de carbone présent dans le combustible, au moment où il est brûlé, cela donnera forcément une molécule de CO2. Et donc, on sait exactement, étant donné la formule chimique des carburants, on connaît exactement le montant des émissions. C'est pour cela qu'on peut taxer les carburants et les combustibles au litre, et que c'est absolument équivalent à taxer les émissions de CO2.
Et on en arrive là à un principe fondamental aussi, à partir du moment où on sait mesurer effectivement l'impact environnemental de la production d'un certain nombre de litres, on va dire notamment de carburant, c'est totalement ce principe de pollueur-payeur. C'est, on va revenir sur cette notion très importante. Frédéric Reynès, est-ce qu'on peut dire pour autant, et là c'est un autre enjeu de vocabulaire, c'est que cette taxe carbone est souvent présentée comme une composante, ce n'est qu'une composante du prix. Pourquoi c'est important de faire cette distinction aussi?
Justement, ça c'est un point qui peut être un peu contesté de ce point de vue-là. En fait, on pourrait interpréter toute la taxe qui est sur les volumes sur le pétrole comme une taxe carbone globale. D'ailleurs, quand l'OCDE compare les prix du carbone, il ne parle pas de composante carbone pour la France, il prend toute la taxe qui est appliquée. Ce qui est important, l'important, et ce qu'a dit Mireille, c'est que ça soit sur les volumes. C'est une taxe sur les volumes. La TVA dépendrait du prix du pétrole. Donc là, on parle bien d'une taxe dont on va payer plus que si on consomme plus. Donc c'est sur les volumes. Effectivement, on a fait une distinction qui, nous, à l'OFCE, on avait fait un policy brief là-dessus, on trouve un peu arbitraire, entre de dire qu'il y a une partie, une composante carbone, alors que, du point de vue économique, toute la TICPE, toute la taxe sur les produits pétroliers, c'est une taxe carbone, elle a le même fonctionnement. Peut-être c'est pour introduire que c'était nouveau, parce qu'effectivement, au début où qu'on avait mis cette taxe, elle n'avait pas vocation directe d'être pour le carbone quand elle était mise dans les années 80.
Mireille Chéol-Assouline, vous souhaitiez réagir, je vous voyais secouer la tête. Les auditeurs ne le savent pas, mais voilà, je le dis.
Oui, parce que ce qui se passe, cette dénomination est liée à l'historique de la fiscalité de l'énergie en France. La TICPE était fondamentalement et est toujours une taxe traditionnel.
Une petite parenthèse, TICPE, c'est pour taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.
C'est cela. Donc, cette TICPE avait vocation à fournir des recettes fiscales à l'État, et l'un des moyens les plus effectifs de fournir un rendement est de s'appliquer à une base fiscale très large, donc l'énergie. Autrefois, sous l'ancien régime, on taxait le sel. Donc là, on taxe l'énergie à un taux qui n'est pas un taux prohibitif, de façon à ce que ça reste supportable et que, par conséquent, les recettes fiscales soient assurées. La taxe carbone, celle dont on parle, obéit à une logique qui est complètement différente. C'est-à-dire qu'il s'est agi, lorsqu'elle a été introduite, il s'est agi de limiter véritablement les émissions de carbone. Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu deux projets successivement. Il y a eu le projet présenté par la commission Rocard en 2009, on ne parlait pas de taxe carbone, mais on parlait de contribution climat-énergie.
Commission dont vous faisiez partie, je crois, en tant qu'expert.
En tant qu'expert, ouais. Oui. Et à partir de cette commission, donc le principe et la raison du choix de ce terme, contribution climat-énergie, était de vouloir insister sur le fait qu'il s'agissait de faire payer aux citoyens le coût de leur comportement d'émission de carbone et le fait qu'ils contribuaient à détériorer le climat. Ce projet a échoué pour des raisons, je ne sais pas si on aura le temps de revenir là-dessus, mais ça n'a peut-être pas beaucoup d'importance, mais en tout cas, ce projet n'a pas été mis en œuvre. Et au moment de la mise en place de la taxe carbone, ça n'est pas sous le nom de taxe carbone qu'elle a été initialement introduite, mais sous le nom de composante carbone de la TICPE, c'est-à-dire, et une composante qui était destinée à prendre de plus en plus de place. avec un taux qui devenait de plus en plus fort. Et ça, c'était parce que les participants à la commission fiscalité énergie qui avait réfléchi à ça et les politiques qui se sont posé la question de l'acceptabilité de cette taxe ont trouvé que ce serait une bonne idée de la glisser dans quelque chose de déjà existant. Ça évitait des débats trop importants sur l'introduction d'un nouvel impôt, d'une nouvelle taxe. Et en fait, et je l'avais dit dès le début, c'était une très mauvaise idée.
Mais est-ce qu'on aurait pu faire autrement?
Bien sûr, on aurait pu assumer directement d'ajouter un impôt, d'ajouter un prélèvement, en expliquant que ce n'était pas un prélèvement destiné à obtenir des recettes fiscales, mais à changer le comportement.
Et c'est là, Frédéric Reynès, le point crucial, c'est qu'effectivement, ce n'est pas une taxe ou un impôt comme les autres, ce n'est pas une taxe qui est censée remplir les caisses uniquement de l'État, c'est une taxe qui est censée inciter, bouleverser, modifier les comportements, et ça c'est relativement inattendu, ou en tout cas c'est peut-être moins facilement perceptible effectivement pour les personnes qui sont de fait soumises à cette taxe.
Tout à fait. Et c'est vrai que je connaissais pas toute l'historique interne de ce choix et qui fait que aussi je pense qu'il était une erreur. Mais sur le point de vue de la transparence, peut-être effectivement de vouloir définir une taxe additionnelle alors qu'en fait sur le fonctionnement, sur le mode de recette, sur les personnes qui sont, c'est le même principe. Mmh. On introduit en fait une hétérogénéité entre d'autres sources d'émissions qui ne sont pas taxées. Et je pense que ça a été quelque chose d'assez important au moment des Gilets jaunes.
D'où le sentiment d'injustice, oui.
De sentiment d'injustice, de dire, mais on a déjà une taxe sur la TICP qui est proportionnelle. Pourquoi nous augmenter cette taxe en l'appelant composante carbone, alors que quand on regarde, le kérosène n'est pas taxé, le gaz ne l'est qu'à 50 euros la tonne. Et nous, on s'est amusé à faire ce calcul de quelle est la taxe implicite de la TICPE, donc de la taxe sur les produits, si on la convertissait en taxe carbone, en disant, et on s'aperçoit effectivement qu'on est à des taux de autour de 200 euros la tonne pour l'essence, et pour moins 280 pour l'essence, 220 pour le gasoil. Justement, on parlait de ce rattrapage qui était mis, dont on parlait au début de l'extrait, qui était justement pour rattraper cette différence. Et par contre, on a le kérosène qui est à zéro, pour des raisons compliquées d'accords internationaux, qui pose un problème, qui en plus est principalement utilisé par des personnes aisées, alors que la voiture, elle peut être utilisée pour des personnes qui ne le sont pas. Donc le fuel domestique est à 50, ce qu'on peut comprendre, qu'il y ait une exemption là-dessus, qu'elle soit plus basse, parce que effectivement c'est un besoin nécessaire. Le gaz était pareil, à 50 à peu près. Donc je pense que ça a été ce manque de transparence, de vouloir additionner une taxe, l'appeler composante, pour des raisons peut-être au début bonnes, enfin peut-être on ne voulait pas affoler. En fait, c'est un peu retourné contre le législateur qui a sans doute les personnes qui ont été les premières frappées, c'est notamment les personnes dans les zones rurales, se sont senties les premiers touchés par ça.
Mais Mireille Chirolle-Rassouline, est-ce que si on avait fait preuve de plus de transparence, si on avait mieux expliqué les choses, si on avait mis sur la table le fait que oui, effectivement, c'était un outil fiscal destiné à modifier les comportements à vocation incitative, est-ce que ça aurait été davantage accepté selon vous? Est-ce qu'il y a eu un défaut de fabrication qui consistait à effectivement ne pas avoir suffisamment bien expliquer les choses?
Oui, je pense fondamentalement qu'il y a eu un défaut de fabrication et il y a eu un défaut de compréhension. Et là, je reviens sur ce qu'a dit Frédéric. Si les taux de taxes globaux sont différents sur le gaz, le fioul et l'essence, ce sont les taux de TICPE. Parce que fondamentalement, la contribution carbone, elle, était calculée la même par molécule de CO2, la même par kilo de CO2.
Oui, quel que soit son usage. Oui.
Voilà, quel que soit le support, quel que soit le combustible. Et donc là, il y avait une véritable justice entre tous les carburants en fonction de leurs émissions. Et alors, oui, je pense qu'il y a vraiment eu un problème de manque de pédagogie. Et parce qu'il a été craint au début que l'instauration d'une nouvelle taxe soit mal perçue, finalement ça a été fait de façon subreptice. Et moi, ça m'a toujours paru totalement absurde. Je dis souvent que je l'avais déjà dit, mais c'est insupportable.
C'est facile à dire. Bon,
c'est insupportable. En fait, La taxe carbone a été introduite donc dans le projet de loi de finances pour 2014 à une période où les prix internationaux du pétrole étaient faibles. Et donc, finalement, elle a été introduite à un taux très faible et sur des prix internationaux du pétrole qui étaient très faibles. Par conséquent, effectivement, les contribuables ne se sont rendus compte de rien. Ils se sont rendus compte de rien pendant des années. Et ce qui s'est passé en 2018, ce n'est pas que la taxe a véritablement augmenté. Elle a augmenté selon une trajectoire qui avait été votée. Elle avait déjà augmenté l'année précédente. On était loin encore des taux qui étaient nécessaires. Ce qui s'est passé, c'est que les prix internationaux du pétrole ont brusquement augmenté. Et donc là, les automobilistes se sont rendus compte que les prix à la pompe avaient augmenté. Et de bonnes âmes, qui politiquement étaient opposés à la taxe carbone, ont signalé que c'était forcément l'augmentation de la taxe carbone et que si on revenait là-dessus, ça permettrait de réduire les prix.
Cela dit, Amir Echirolo a souligné, moi aussi je vais avoir recours à une rhétorique un peu facile, mais on pourrait se dire que c'était anticipable d'avoir cette augmentation des prix de l'énergie de façon générale. On aurait pu le prendre en compte aussi dans la modélisation.
Bien sûr, non, mais que ce soit anticipable, le problème, c'est que c'est qu'il fallait expliquer que quelle que soit l'évolution des prix de l'énergie, il était nécessaire de réduire les émissions de carbone. Et par conséquent, il fallait mettre en place une taxe. Moi, j'étais même favorable à ce que le taux de taxe soit bien supérieur à celui qui a été mis en place, parce que justement, ça aurait montré le caractère indispensable de cette taxation. Et puis après, il fallait mettre en place des mesures pour que ça ne pénalise pas des ménages qui pouvaient pas supporter un surcoût de cette sorte.
On va revenir sur la façon dont on peut calculer justement quel serait le bon taux effectivement de taxe. Est-ce qu'on dise les économistes? Avant cela, vous souhaitiez réagir, Frédéric Reynès.
Je pense qu'il y a deux choses. Il aurait peut-être fallu assumer, je reviens toujours à cette composante, effectivement, il y a une partie égalitaire de dire que la composante est la même pour tous, mais c'est vrai que dans les faits, ce n'est pas vrai, parce que le kérosène n'a pas cette partie. Donc, je pense que ça aurait été plus efficace à long terme d'être transparent, de montrer qu'il y a des différences, mais qui sont justifiées soit par l'histoire, parce que historiquement, on avait d'abord taxé les automobilistes, on voulait taxer les automobilistes, et que c'est amené à converger probablement à long terme. Il y aura une certaine convergence, mais il peut y avoir des exemptions sur le... Et je pense que ça aurait été beaucoup plus efficace d'assumer ce choix qui a été en soi efficace pour réduire la consommation d'énergie en France aussi. D'assumer que grâce à ça, la France consomme moins de pétrole que les États-Unis, par exemple, a permis de montrer que ça avait déjà marché plus ou moins. Je pense que ça aurait été à long terme plus efficace, mais...
C'est facile de réécrire l'histoire, mais puisque nous sommes à un point où on essaie de comprendre ce qui n'a pas fonctionné chez nous en France et notamment à l'aune du mouvement social très important des Gilets jaunes, je vous propose justement d'écouter des témoignages de Gilets jaunes qui ont été récoltés en 2018.
On est là pour dire un ras-le-bol. Nous, on habite dans l'Oise, on travaille dans la région parisienne. On habite à la campagne et tous les jours, on est obligé de faire 100 bornes par jour, 50 allées, 50 retours, 100 bornes. Et en voiture, on n'a pas le choix. Et en plus, ils nous ferment les usines. On travaille chez PSA, on travaille à Aulnay-sous-Bois. Ils nous ont fermé l'usine, ils nous ont envoyé à Saint-Ouen, plus loin, plus loin, plus loin. Et après, ben voilà, ils nous taxent et tout ça, quoi. Ben, on travaille à Saint-Ouen, c'est pour ça qu'on fait 50 km par jour. Aller-retour, 100 km, ouais.
Un peu plus de 100 km. En se payant les embouteillages, bien sûr, tous les jours.
Trois plats par mois, ça nous représente pratiquement 200 euros. Et avec l'augmentation, on perd facilement 60-70 euros par mois. Depuis les augmentations, les taxes, tout. Quoi. Impossible de prendre des transports. Quand on est du matin, on commence à 6h. Le premier train de chez nous, il part à 5h20. Il arrive à 6h15 à Gare du Nord. Donc c'est impossible. On commence à 6h. Donc c'est impossible. Ou alors tous les jours, on arrive au boulot une heure en retard tous les jours. Donc c'est pas possible.
Vous êtes bien sur France Culture, à l'écoute d'Entendez-vous l'écho, et nous décortiquons aujourd'hui la notion de taxe carbone. On n'a pas le choix, Mireille Chirolet-Assouline, c'est une autre interrogation qui vient sur le tapis, dès lors que tout l'enjeu de la taxe carbone, on l'a dit, est d'inciter, d'envoyer un signal à travers le prix. Est-ce que toute la théorie économique, toute la théorie ne s'effondre pas à partir du moment où les individus n'ont tout simplement pas le choix de faire autrement, pas le choix de modifier leur comportement, ce qui est dit dans ces témoignages?
La politique économique repose rarement sur un seul instrument. Et en particulier, la taxe carbone n'a pas vocation à être l'alpha et l'oméga de la politique environnementale. En revanche, c'est une composante qui me paraît nécessaire, enfin, qui me paraît même indispensable. Ce qu'il y a, c'est que, comme je le disais, la taxe carbone n'a pas vocation, contrairement aux taxes sur l'énergie plus standard, n'a pas vocation à fournir des recettes fiscales à l'État, elle en fournit fatalement, puisqu'il y a des produits qui sont taxés, eh bien ces recettes-là, il faut qu'elles soient utilisées et il faut que ça vienne accompagner une politique à la fois de redistribution de pouvoir d'achat à des ménages qui seraient trop fortement touchés, mais aussi une politique d'équipement dans les collectivités, etc., pour qu'il y ait davantage de trains, ou si ce ne sont pas des trains, qu'il y ait des transports collectifs hein, qui permettent d'acheminer les travailleurs vers leurs usines lorsque les usines ont été délocalisées à 50 km, comme dans l'exemple qu'on entendait, etc. Et donc, c'est tout un ensemble, c'est tout un éventail de mesures qu'il faut prendre en même temps, mais le fait que le prix des émissions carbone soit augmenté, que le prix des produits qui permettent ces émissions soit augmenté par rapport aux produits qui, eux, n'émettent pas, c'est essentiellement le mécanisme le plus vertueux qui puisse être mis en place.
On en arrive là à un point crucial, Frédéric Reynès, c'est finalement à quoi servent les recettes ainsi générées. On l'a dit, il y a deux fonctions finalement avec cette taxe carbone, celle à la fois d'inciter à adopter un certain comportement, mais aussi fatalement, puisqu'il s'agit d'une taxe à atterrir dans les caisses de l'État. Alors, je n'ai pas réussi à trouver, c'est très compliqué de savoir combien de recettes cela génère en 2023 ou 2024 pour l'État français, mais très concrètement, comment est fléché cet argent, si tant est qu'il puisse l'être?
Et c'est ça, la principale erreur, sans doute, qui a conduit au mouvement des Gilets jaunes, c'est que, en fait, les recettes ont été utilisées pour réduire le déficit, dans un timing mauvais. C'est-à-dire, d'abord, des réductions d'impôts qui ont été vues favorables aux entreprises et même aux ménages favorisés. Et juste après, on avait l'impression que, on a un trou, ça tombe bien, on avait prévu d'augmenter la taxe carbone, et on le met. Et donc, effectivement, l'extrait que vous présentez traduit très pleinement ce sort de ras-le-bol qui avait été vécu. Je suis d'accord avec Mireille que l'objectif, effectivement, d'avoir un prix qui augmente, c'est les économistes sont tous d'accord là-dessus, que c'est c'est la manière la plus efficace et à la moins coûteuse, à long terme, de réduire les émissions. Ça, c'est ça qui est important. Mais il y a rien qui dit que cet argent, les économistes sont tous d'accord aussi qu'il faut qu'il soit redistribué, pas pour réduire les déficits, mais pour accompagner. Parce que c'est justement une source d'argent qui va permettre soit de les personnes qui sont vraiment frappées et qui n'ont pas le choix, comme dans votre extrait, qui du fait de la politique depuis une cinquantaine d'années où on s'installe à la campagne, on peut pas demander à ces gens d'un coup de devoir prendre le train sans alternative. Donc quelles sont les alternatives? Donc dans un premier temps, on pourrait déjà les aider, surtout ceux pour qui c'est le plus problématique. Ça pourrait être fait sur une sorte de chèque en fonction de votre distance au travail. Ça pourrait être fait sous forme de réduction d'impôts. Il y a plein de manières. Et aussi, cet argent doit être utilisé pour investir dans les alternatives. Et c'est ça qu'effectivement, tout le projet qui avait été mis a manqué. Et donc, il a été vu comme une recette fiscale comme les autres, comme la TVA. Et c'est vrai que c'est très, très mal passé.
Mireille Chirolle Assouline, de ce point de vue-là, je me sers d'un exemple à l'international, mais parce que ça nous aide aussi à comprendre, au Canada, dans la province de Québec, les redevances de cette fameuse taxe carbone, qui existe toujours, je le rappelle, malgré le contexte, sont remises au fonds d'électrification et de changement climatique du ministère de l'Environnement, qui sert notamment à fournir des subventions pour l'achat de véhicules électriques à des particuliers, des villes ou des services de transport en commun. S'il y a un fléchage quasiment direct, est-ce que c'est la même chose en France ou est-ce qu'on n'a pas finalement appris de nos erreurs nécessairement et c'est beaucoup plus étendu, on va dire qu'il n'y a pas de fléchage réellement?
Non, il n'y a pas du tout de fléchage en France. En France, il y a une espèce de principe unanimement accepté d'un point de vue politique et théorique. Les fiscalistes, mais nos collègues juristes fiscalistes sont très attachés à ce principe de non-affectation des recettes fiscales. Donc les recettes arrivent comme ça dans le budget de l'État. Il existe certaines recettes qui peuvent être, dont l'utilisation cotisation peut être fléchée, mais c'est très exceptionnel et ça n'est pas le cas pour la taxe carbone. Donc effectivement, je pense que ça serait au contraire une très bonne chose et ça aiderait à la fois à la transparence. Hein. C'est quelque chose qui a été mis en place depuis quelque temps déjà, depuis un moment en Colombie-Britannique, où il y a un site web qui explique aux citoyens où vont les recettes fiscales, quelle est la partie qui est redistribuée, parce qu'il y a une partie qui est redistribuée sous la forme de chèques, de dividendes à des ménages, et puis une partie qui est utilisée autrement, et c'est expliqué.
Frédéric Reynès.
Et c'est vrai que ce principe de non-affectation est légalement un problème pour ça, parce qu'on voit qu'en fait, on peut tout à fait dire, ben, on vous met une taxe carbone et en contrepartie, on baisse quelque chose, on vous redistribue. Mais en fait, ce n'est pas légal dans le sens où ça peut être l'année d'après révisé complètement. Il n'y a pas de fléchage automatique. Les seuls cas, effectivement, qu'on a, on pourrait penser, c'est les retraites, par exemple, où on a un fonds de cotisation qui, pour là, va être géré. Ce serait le seul cas où on fait un peu exception, où les cotisations aussi de santé, où on fait un peu exception à ce principe. Peut-être, effectivement, c'est une idée de... que pour le climat, ça pourrait être, on pourrait imaginer un fonds, mais je pense que ça demande, les juristes nous le diront, plutôt un changement de constitution parce que ce n'est pas autorisé dans le budget général.
Frédéric Reynès, vous avez évoqué l'idée qu'il s'agirait aussi d'employer cet argent pour entamer une forme de transition, alors que ce soit via un fameux fonds, ce qui semble compliqué d'un point de vue juridique, voire même politique, on pourrait aussi aller par là. Mais il y a une autre contradiction qui, moi, m'a frappée lorsque j'ai préparé cette émission. On pourrait se dire que les investissements publics pourraient prendre le relais au-delà de passer par une taxe spécifique. Or, les dépenses de protection de l'environnement de l'ensemble des administrations publiques se sont élevées à 1% du PIB en 2023. Est-ce que les dépenses publiques pourraient prendre le relais pour justement atteindre ces objectifs de climatique?
Il y a sans doute des alternatives en tant qu'instrument à la taxe carbone, que ce soit les investissements publics, les subventions pour inciter plutôt que de pénaliser. Mais il faut des fonds, des ressources pour ça. Et justement, on voit directement une taxe pourrait être une ressource pour justement faciliter ces choses. Donc c'est ça le... Non, effectivement, ces autres instruments ont moins de problèmes d'acceptabilité, que ce soit les subventions ou investir dans le train, mais on fait face à un problème de ressources et justement la taxation carbone pourrait être le chaînon manquant pour pouvoir atteindre cette ressource.
Et on en revient à cette double fonction de cette fameuse taxe carbone qu'on évoque depuis le début de l'émission. Mais ce qui est quand même intéressant, et j'insiste là-dessus, Frédéric Reynès, c'est que la taxe carbone et le marché des quotas carbone rassemblés, donc tout ce qui est tarification carbone, ont généré, on va dire, environ 8,1 milliards de dollars en France en 2022. Et or, on voit qu'à côté de ça, il y a 10 milliards de dollars, c'est mesuré en dollars parce qu'il s'agit d'un organisme qui s'appelle Fossil Fuel Subsidy Tracker qui a mesuré tout ça. Donc 8,1 milliards de dollars gagnés grâce à la tarification carbone et 10 milliards de soutien aux énergies carbonées en 2021. Est-ce qu'il n'y a pas là une forme de contradiction ? Mireille Chirola souligne peut-être.
Bien sûr, il y a une contradiction et qui est dénoncée depuis des années par tous les économistes de l'environnement, qui est dénoncée par l'OCDE aussi. Enfin, l'OCDE ne dénonce pas, l'OCDE fait des rapports et met en évidence ces subventions aux énergies fossiles. Il faudrait supprimer ces subventions aux énergies fossiles, mais ces subventions aux énergies fossiles, lorsqu'on en parle comme ça de façon agrégée, ça a l'air d'être la chose à supprimer de façon évidente. Et quand on regarde dans le détail, ce sont les exemptions dont on parlait, les exemptions ou les exonérations partielles pour les taxis, les pêcheurs, les chauffeurs, les transports routiers, etc. Et donc là, quand on commence à s'attaquer à une niche fiscale, vous savez ce qu'on dit, il y a toujours un contribuable qui aboie à l'intérieur.
On s'en doute bien, mais Mireille Chirol-Assouli, est-ce que tout ce qu'on vient d'expliquer finalement sur le fait que cette taxe carbone soit aussi une ressource fiscale et qui de fait encore une fois, nourrit les caisses de l'État. Est-ce que c'est cela qui fait qu'on a opté pour ce système, au-delà de toute efficacité en termes de changement de comportement, d'efficacité théorique, est-ce que c'est cela qui fait qu'on a opté pour cette idée d'internaliser quelque part les externalités négatives plutôt que de récompenser les externalités positives, par exemple, ce qui aurait pu être une solution ?
Non, mais attention. De toute façon, c'est la même chose, là, ce que vous me dites. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que nous avons des externalités négatives et on peut les internaliser de différentes façons. On peut les internaliser. Alors, on peut les combattre par des normes et de la réglementation, et on peut les internaliser par des instruments économiques. Et les instruments économiques, nous avons soit les taxes et les quotas donc négociables, qui sont là des instruments de marché et qui font reposer le poids de l'ajustement sur le pollueur, sur celui qui émet ici le carbone, où nous pouvons, au lieu de taxer les comportements qui sont émetteurs de CO2, nous pouvons subventionner les comportements qui vont permettre de réduire les émissions. Mais au fond, c'est exactement la même chose, c'est toujours de l'internalisation des externalités négatives.
Et on voit qu'effectivement, ce sont les mêmes mécanismes. C'est vrai que la solution réglementaire pourrait, d'émissions de normes pour le coup, de réglementation, de régulation pourrait être mise sur la table plutôt que d'inciter. On l'a dit, avec cette taxe, on pourrait tout simplement interdire ou contraindre très fortement. Frédéric Reynès, bon, on a vu que c'est au nom des ménages les plus modestes que les députés de la commission spéciale chargée d'étudier le projet de loi de simplification ont voté mercredi dernier, le 26 mars, la suppression des zones à faible émission censées pousser les automobilistes à acheter des véhicules moins polluants. Est-ce que c'est là des limites principales, on va dire, du tout réglementaire?
Déjà, la norme, comme disait Mireille, même une norme, il y a un prix implicite à cette norme. C'est ce que les anglo-saxons parlent d'un shadow price. Je crois qu'en anglais, en français, on dirait prix implicite. Mm-hmm. C'est-à-dire, ça va être le coût de l'investissement qui permet de respecter la norme. En gros, on vous donne une zone de faible émission. Vous ne pouvez plus prendre votre voiture, à part une voiture électrique. Mais il faut acheter la voiture électrique. On peut convertir le surcoût de la voiture électrique en émissions économisées. Donc en fait, c'est pour ça que tous ces instruments, au final, on en revient au prix du carbone, mais sous une forme différente. Et le problème de la norme, effectivement, on s'est dit, puisque la taxe carbone n'est pas acceptée, mais elle n'a pas été acceptée aussi parce qu'il n'y a pas eu ces mesures de redistribution, toutes ces mesures d'accompagnement, on se dit, la norme va faire mieux. Effectivement, on voit que c'est pas le cas. On voit bien le recul en arrière. Et on comprend bien, parce qu'une norme, c'est bien plus liberticide qu'une taxe. C'est en gros, on va se poser la question, mais qu'est-ce qu'on interdit? Est-ce qu'on interdit les Formule 1, les courses de Formule 1? Est-ce qu'on interdit de manger de la viande? Est-ce qu'on interdit les 4x4? Et on voit bien que multiplier toutes ces normes, ces réglementations, ça va avoir un effet de rejet probablement bien supérieur que de, en gros, laisser les gens payer pour leur pollution et utiliser cet argent pour accompagner ceux qui ont le plus de mal. Ce serait donc oui.
Et c'est ce que j'allais dire, Frédéric Reynès, c'est pour qu'on comprenne aussi l'intérêt, l'avantage d'une telle taxe carbone, au lieu de chercher à comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, c'est qu'on pourrait se dire qu'effectivement, un système de taxation plus précis, qui s'adresse à des acteurs économiques qui connaissent, alors peut-être pas pour les ménages, mais au moins pour les entreprises, qui connaissent le coût, effectivement, que ça leur coûterait de soit faire les investissements pour consommer différemment, on va dire, les énergies fossiles, ou pour les réduire et viser la sobriété, ça permet peut-être aussi une mesure plus précise, une gestion plus délicate, plus précise aussi des comportements, en fait.
Voilà, et surtout, ça respecte plus une sorte de liberté d'entreprendre ou de... c'est beaucoup moins liberticide, donc c'est parce que la norme, en gros, c'est efficace pour quelque chose qui est un poison. Personne va contester d'interdire un poison. Mais dès que le CO2, c'est pas un poison. Le CO2, on en a besoin pour fonctionner.
Poison pour la planète.
Quand il y en a trop, c'est un poison. Donc c'est pour ça que la norme n'est peut-être pas forcément la meilleure chose pour faire respecter quelque chose qui, en soi, ne devient polluant que quand il est trop produit.
Reste à savoir, Mireille Chiroleau a souligné, comment on détermine le montant de cette taxe. Tout le monde n'a pas forcément une connaissance non plus extrêmement fine et précise, on va dire, du coût marginal de réduction d'une tonne de CO2. Or, c'est important de l'avoir en tête pour savoir si c'est logique, rationnel ou pas de vouloir payer la taxe plutôt que de faire cet effort-là. Est-ce que de ce point de vue-là, c'est une taxe qui parle à tout le monde? Est-ce que c'est une taxe qui, de fait, a véritablement cet effet incitatif? Est-ce que le signal prix fonctionne, en fait, à partir du moment où c'est difficile de configurer le prix d'une tonne de CO2?
Mais en fait, le signal prix fonctionne dès l'instant où le prix d'un bien est augmenté, quelle qu'en soit la raison, les consommateurs s'adaptent. Alors, ils ont de plus ou moins grande capacité à s'adapter, justement, s'il faut investir pour pouvoir s'adapter. Mais ils s'adaptent. Et vous citiez tout à l'heure le fait qu'on consomme moins d'énergie, ou en tout cas les automobilistes consomment moins d'énergie, moins d'essence qu'aux États-Unis. C'est un magnifique exemple, juste justement de la sensibilité de la consommation de carburant au prix. Les prix aux États-Unis ont toujours été extrêmement, extrêmement faibles. Il n'y a aucune incitation pour les constructeurs automobiles à produire des véhicules qui consommeraient peu, alors qu'en Europe et en France, avant même toutes les mesures qui ont été prises pour réguler justement le marché de l'automobile, mais il y avait une incitation très forte à produire des véhicules qui consomment peu pour que les ménages aient une facture qui ne soit pas trop importante. Et donc, le signal prix fonctionne absolument. Et on n'a pas besoin de savoir exactement quel est le montant de ce qu'on est en train de payer sur le carbone. Mais tout simplement, on paie davantage parce que le carbone est tarifé.
Frédéric
Rennes. Je suis d'accord, effectivement, je pense que tout le monde est même demandeur pour déterminer un investissement de cette trajectoire un peu. On n'a pas besoin de savoir exactement quelle est exactement cette valeur. Quand on regarde les études pour voir l'effectivité d'un signal, effectivement, on peut revenir à la France, à l'Europe, qui a eu des taxes plus élevées, qui ne s'appelaient pas taxes carbone, mais qui ont eu un effet. Donc, on le voit avec les pays qui n'en avaient pas. On le voit aussi quand on regarde la mise en œuvre, par exemple, juste des fois le signal de mettre, par exemple, un marché de quotas, a fait qu'il y a eu des réductions. On l'a vu.
Simple mécanisme qui suffit.
Voilà, les gens anticipent. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile de vous dire tel niveau va avoir tel résultat. Parce que justement, ça dépend de l'anticipation. Les gens, s'ils savent que ça va être dans 10 ans, ils vont commencer déjà à investir. Donc, on a du mal à voir. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas le niveau encore exactement qui permet d'atteindre telle cible. C'est pour ça que là, il y a le rapport Kiné qui fait une trajectoire, par exemple, de la valeur pour le climat.
Et ce fameux rapport Kiné, il est intéressant. Je suis contente que vous le mentionniez, Frédéric Reynès, parce que c'est vrai qu'il peut intriguer pour des amateurs, on va dire, qui arrivent sur ce rapport qui a donc été remis le 20 mars dernier, qui a été publié dans le cadre de France Stratégie, et qui tente d'élaborer justement la trajectoire de la valeur du carbone. Et là, il faut nous aider à comprendre comment fonctionnent les économistes, Frédéric Reynès, parce que selon ce rapport, la valeur de l'action pour le climat est de 256 euros en 2025. Là, je cite le texte, ce qui signifie que toutes les actions d'atténuation coûtant moins de 256 euros la tonne de CO2 abattue méritent d'être engagées. Comment on parvient à un tel calcul ?
Donc, il y a plusieurs manières d'y arriver. C'est soit on calcule, on fait une courbe des coûts d'abattement possibles, et donc on voit pour abattre une certaine tonne combien ça nous coûterait. On mélange plusieurs approches. Des fois, certaines, ça va être quel est le en ayant vu les réactions justement dans le passé des agents par rapport au prix, combien, si en mettant tel taux, combien ça les fait réagir et combien ça permet de réduire la. Et tout ça, il faut voir que c'est vu dans une vue un peu intertemporelle, c'est-à-dire que on a un niveau maintenant. Mais on sait qu'il va augmenter, et ça nous permet de prendre des décisions plus ou moins, rationnelles en termes de coûts. Et donc, effectivement, en fonction des nouvelles cibles qui ont été révisées, donc de réduction des émissions, cette commission, en mélangeant plusieurs types de modèles, certains étant plus des modèles, comme on dit, bottom-up, c'est-à-dire technico-économiques qui calculent des courbes d'abattement, d'autres qui sont plutôt macro-économiques et qui regardent comment réagissent les agents selon des hypothèses de réaction au prix vis-à-vis d'une augmentation du prix. Ils sont arrivés à ce niveau. Ils se démarquent bien, si on le lit quand même, ils veulent pas qu'on. C'est pas une taxe carbone, hein.
C'est la valeur de l'action pour le climat.
Voilà, parce que justement, c'est plus un guide qui pourrait à la fois inciter une entreprise à se dire, pour ma production, si en changeant mon mode de production, je peux le faire à un coût inférieur, et bien c'est rentable parce que le coût du carbone sera amené à augmenter dans le futur. Mais ça peut être aussi pour guider le prix d'une taxe carbone éventuellement. Donc c'est un concept assez vague qui peut avoir différentes applications.
Mireille Chollet-Assouline.
Je voudrais juste préciser une chose. Lorsque Frédéric Reynès dit c'est rentable, attention, c'est rentable pour la société. C'est rentable pour la société dans son ensemble. C'est-à-dire que c'est pas forcément une notion de rentabilité pour l'entreprise. Maintenant, si l'entreprise se devait payer le prix de 256 euros la tonne, à ce moment-là, c'est sûr qu'elle engagerait toutes les mesures d'abattement qui seraient à des coûts inférieurs à 256 euros la tonne. C'est le raisonnement. C'est la le raisonnement qui est derrière. Oui, oui. Mais maintenant, ça n'a pas vocation, effectivement, et ce rapport a bien précisé que ça n'a pas vocation à être la trajectoire d'une taxe carbone, parce que des quantités d'autres mesures peuvent être prises en même temps. Et donc, si globalement, toutes ces mesures permettent d'atteindre un coût qui est inférieur à 256 euros la tonne, c'est pertinent.
Mireille Chiroluasouline, nous l'avons dit, la taxe carbone est entrée en vigueur, on va dire, en 2014 en France. Vous l'avez dit, les tarifs ont progressivement augmenté. La tonne de CO2 était fixée à 7 euros au départ, puis 22 euros en 2016. Puis les lois de 2015, puis 2017 avaient fixé la trajectoire à 44,6 euros en 2018 pour atteindre 55 euros en 2019, 86,2 euros en 2022. Les choses se sont arrêtées en raison de tout ce qu'on vient d'évoquer, notamment lié au mouvement des Gilets jaunes. Les choses se sont arrêtées à 44,6 euros. Or là, c'est intéressant parce que des économistes ont fait ce travail de comprendre quelle devrait être la bonne trajectoire, quelle devrait être la bonne taxe. Et c'est notamment le cas d'un rapport qui a été remis en mai 2017, si mes souvenirs sont exacts, et qui exprime l'idée que plus la taxe sera forte, plus le message passera. Mais là, il y a une forme de contradiction. Mireille Chiroluasouline, est-ce qu'on pourrait se dire que si on met une taxe très très élevée, forcément, ou alors plutôt que la contradiction s'exprime ainsi, que pour être efficace, on est forcément socialement injuste?
Non, si on redistribue les recettes. Parce que si on explique, vous voyez par exemple, donc si la valeur de l'action pour le climat, c'est de 256 euros la tonne de carbone, on voit bien que, même si ça n'a pas vocation à être la trajectoire de la taxe carbone, une taxe carbone à moins de 50 euros la tonne, c'est vraiment très en dessous. C'est très en dessous. Et donc, il serait tout à fait pertinent d'avoir une taxe carbone qui soit beaucoup plus importante. En étant beaucoup plus importante, elle permettrait d'avoir des recettes fiscales très importantes et qui pourraient, par conséquent, avoir une véritable efficacité pour financer des investissements publics, pour être redistribuée à des ménages qui ont besoin d'être compensés. Tout le monde n'a pas besoin d'être compensé. Hein. Vous savez, les ménages très aisés qui ont pour leur confort deux véhicules alors que ce n'est pas forcément nécessaire, qui ne pratiquent pas le covoiturage, etc. Ces ménages-là n'ont pas forcément besoin d'être compensés. Donc, si on combinait cela, au contraire, il n'y a pas de contradiction. Et au contraire, ça pourrait permettre que ça soit plus accepté. Au moment des Gilets jaunes, moi, j'ai vraiment l'impression que les choses auraient pu être renversées si, au lieu d'annoncer que, en conséquence du mouvement, l'augmentation de la taxe était gelée, si on leur avait annoncé que la taxe était maintenue parce que c'était absolument nécessaire. En revanche, les dépenses qui étaient prévues, par exemple, pour verser deux fois cette année-là le CICE aux entreprises, en vertu de l'année précédente et parce que le calcul avait changé en vertu de l'année courante, si cette somme-là, c'était la même, hein, c'était 10 millions d'euros, si cette somme-là avait été utilisée pour redistribuer aux ménages qui étaient affectés par la hausse des prix du carburant, eh bien, on aurait contribué à faire accepter la taxe carbone. Ça n'a pas été le cas.
On en revient effectivement aux raisons de cet échec. Ce fameux rapport de mai 2017 que je mentionnais, c'est celui des économistes Nicolas Stern et Joseph Stiglitz, hein, qui disaient que pour être pleinement efficace, le prix devrait se situer entre 50 et 100 dollars la tonne de CO2 en 2030. Ça, Frédéric Reynès, c'est un calcul, encore une fois, qui est basé sur quoi? Et puis surtout, comment on arrive à, en tant qu'économiste, à ménager à la fois ces critères d'acceptabilité sociale et ces critères d'efficacité aussi fiscaux?
Ces niveaux, disons, c'est un compromis entre le coût qu'on peut voir sur les abattements les plus réalisables maintenant, combien ça coûterait. Donc souvent, c'est les prix de départ qui sont pris, et avec une projection des technologies qu'on anticipe dans le futur. Mais je voudrais revenir aussi sur ce plus que le niveau. C'est vrai que souvent, c'est de se dire qu'on ne peut pas faire autrement parce que ça sera toujours inégalitaire. En plus, c'est faux. C'est que c'est vrai que la taxe carbone, c'est une taxe qui est progressive, comme toute taxe sur la consommation d'ailleurs.
Qui est régressive.
Excusez-moi. Qui est régressive. Merci. Qui est régressive. Mais ce que je voulais dire, c'est facile de la rendre progressive si on a les mesures de redistribution. Et c'est assez bien documenté que très rapidement, on n'a même pas besoin de tout redistribuer pour le rendre très rapidement progressif. Et en fait, c'est un argument un peu de mauvaise foi, souvent, parce qu'on ne peut pas demander à la taxe carbone de résoudre tous les maux de l'économie, je dirais, mais à MAUX, dans ce cas-là, puisque là, les inégalités, on est d'accord que c'est un problème social, économique, important, mais que justement, il y a des moyens d'éviter cette régressivité et que ça ne peut pas être un argument pour rejeter en bloc la taxe carbone.
Alors justement, pour comprendre comment ça peut fonctionner, comment ces deux objectifs à la fois d'efficacité et d'acceptabilité sociale peuvent être conjugués, je voudrais vous citer l'exemple de la Suède. La Suède qui a adopté cette taxe carbone bien avant nous en France au tout début des années 90. Nous, on l'a dit, c'est 2014 et puis il y a eu des tentatives un petit peu avant en 2009 et puis même encore avant si on refait vraiment la genèse. Je vous propose d'écouter les témoignages justement d'habitants de Stockholm ainsi que celui de la conseillère énergie au sein de la Confédération suédoise des entreprises. Des témoignages récoltés en 2018.
Nous l'avons acheté il y a 20 ans. La pompe couvre nos besoins en eau chaude et chauffage quasiment toute l'année. Et c'est le cas de tout le monde dans le quartier. Plus personne n'utilise de fioul pour se chauffer. Le ramassage des ordures alimentaires est gratuit. Le reste est payé au kilo. Plus on réduit ses déchets, plus on fait d'économies. Mais je dois dire que je ne le fais pas pour les économies, mais pour l'environnement.
Je me souviens des premières fois où il y a eu des commandes pour un taxi vert. S'il y avait une voiture diesel à ce moment-là qui était numéro 1 dans la file d'attente, et un véhicule biogaz qui était le 10e, eh bien c'est la voiture biogaz qui gagnait le client. Imaginez quel impact cela a eu sur les chauffeurs derrière leur volant. Je suis très fier car c'est une voiture qui respecte l'environnement. J'aide à préserver cet environnement pour contribuer à un air plus sain pour nos enfants, pour le futur. Alors quand je dors, eh bien je dors très bien.
Il n'y a pas eu beaucoup d'opposition. D'une façon générale, l'idée que l'on doit faire quelque chose pour l'environnement est bien acceptée par les entreprises. On doit réduire nos émissions. Et la taxe carbone est vue comme un des moyens d'y arriver. Il n'y a pas vraiment de débat autour de cette question en Suède.
Mireille Chiroleux souligne, qu'est-ce qui s'est passé en Suède pour que la mesure s'adapte aussi bien au contexte économique et puis aussi aux attentes des citoyens qui, de fait, l'ont subi quelque part? Est-ce que c'est une exception plus qu'une règle? Quelle a été la recette de la Suède?
Alors, la recette de la Suède a été assez originale. Il faut dire quand même que la population suédoise était sans doute plus avertie des problèmes environnementaux que la population française à la même époque. Mais ce qui s'est passé, c'est que la Suède a décidé non seulement de mettre en place une taxe carbone, mais surtout de remplacer des prélèvements qui existaient jusqu'alors et qui existent dans tous les pays, des prélèvements sur le travail, sur les revenus du travail, par cette taxe carbone. C'est-à-dire qu'il y a des recettes fiscales pour un montant de 6% du produit intérieur brut. Donc c'est considérable. Et donc des recettes fiscales qui ont été remplacées par la taxe carbone.
Une sorte de système de compensation, finalement.
C'est ça. Et donc, c'est un verdissement de la fiscalité. Ce qui fait que le travail étant moins taxé, il est devenu moins cher. Ce qui a permis aux entreprises d'employer davantage. Et au contraire, donc tous les produits émetteurs de CO2 ont été taxés, ce qui a permis de réduire les émissions. Et ce qu'on a pu constater, c'est que au cours du temps, ça a été extrêmement efficace, avec une croissance suédoise qui a continué sur une trajectoire très dynamique et un découplage absolu, c'est-à-dire alors que la croissance du produit intérieur brut était significativement positive, les émissions, elles, ont décru de façon très conséquente. Et c'est ce qu'on entendait dans le reportage que vous avez passé. Et donc c'est exactement la recette miracle, hein, et ce qui s'est passé, ce bénéfice qu'on a obtenu, c'est ce qu'on appelle le double dividende, c'est-à-dire un dividende environnemental. Le bénéfice environnemental a été obtenu, et un dividende économique, c'est-à-dire que grâce au recyclage donc des recettes fiscales de la taxe carbone en diminution des charges sur le travail, on a dopé l'économie et on a obtenu davantage de croissance et davantage d'emplois.
Mireille Chirolleau-Assouline, vous me voyez sans doute venir, mais à partir du moment où on a une recette magique, je vais forcément vous demander si on pourrait l'appliquer en France, puisqu'apparemment
On aurait pu, mais je crains qu'on ne puisse plus. Et j'en suis vraiment désolée parce que je suis une partisane enthousiaste de ce type de politique, de réforme fiscale d'ensemble. Quand je dis que je crains qu'on ne puisse plus, c'est que il faudrait en France diminuer les charges sur le travail et évidemment de préférence les charges sur le travail qui est le plus menacé par l'augmentation des prix, l'augmentation des prix de l'énergie et la dégradation de la compétitivité. Donc davantage le travail le moins rémunéré. Or, sur les bas salaires, pour d'autres raisons, les cotisations sociales ont déjà été réduites quasiment à rien, ou même à rien. Et par conséquent, il n'y a plus cette marge de manœuvre. En revanche, baisser les cotisations sociales sur les salaires les plus élevés, ça n'a pas véritablement de sens. Alors, les entreprises diraient, mais si, ça diminuerait le coût du travail, sauf que ça ne conduirait pas véritablement à une augmentation de l'emploi. Et en tout cas, pas les emplois les plus menacés.
Frédéric Rennes, sur cette non-applicabilité, on va dire, de la recette suédoise en France. Et puis c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des ménages, mais c'est vrai que les entreprises aussi ont avancé cet argument du danger pour leur compétitivité que de voir cette taxe carbone appliquée, et surtout de façon très différente entre pays soit de l'Union européenne, soit carrément à l'échelle mondiale. C'est un argument qu'on peut entendre aussi.
Oui, qu'on peut entendre, mais aussi il y a des... On a des moyens de se protéger de cette concurrence mondiale. Donc on parle maintenant du mécanisme d'ajustement frontière, par exemple. Mm-hmm. Effectivement, on ne peut pas continuer à accepter à importer des produits qui, eux, ne seraient fabriqués sans respecter des standards environnementaux élevés, et donc à moindre coût.
Peut-être nous expliquer quelques instants ce que c'est que ce fameux mécanisme d'ajustement frontière.
Donc on a parlé de comment fonctionnait la taxe carbone quand elle est appliquée directement à une source émettrice, et par exemple le pétrole qu'on produit. Des fois où on n'a pas trop parlé, où c'était plus dur de la calculer, c'est quand on essaie de calculer le contenu carbone d'un produit. Autrement dit, quand il a été produit ailleurs, où il n'a pas été taxé déjà, parce que cette zone n'a pas de taxe carbone, et donc on se retrouve à arriver à la frontière, un produit qui a été fabriqué sans respecter certaines normes environnementales, et on aimerait faire une correction. Et là, le calcul est un peu plus compliqué, c'est qu'on est obligé de calculer la chaîne, toute la chaîne d'approvisionnement de carbone, où c'est qu'elle a été... Et bon, les économistes ont des approches qui sont un peu imparfaites, ça va être des modèles input-output qui tracent toute la chaîne et qui permettent de calculer le contenu carbone, mais ils sont assez hétérogènes. Mais bon, d'une manière, on peut arriver à voir les différences entre pays, parce qu'en moyenne, donc ce mécanisme, en gros, consisterait à appliquer une taxe sur des produits importés de certains pays qui ne respecteraient pas certaines normes, à charge à ces pays, sans doute, un mécanisme qui leur permettrait de dire, oui, mais non, en fait, moi, j'ai fait des efforts, donc de demander une exemption. Mmh. Et ça serait un peu le système d'un droit de douane qu'on pourrait contester ou discuter. Ça fait un peu écho avec ce que les droits de douane maintenant, qu'on pourrait contester parce qu'on respecte justement bien certains critères environnementaux, quoi.
Et de reste, ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières est entré en vigueur le 1er octobre 2023 et l'Union européenne vise à l'imposer d'ici 2026. Mireille Chirolleau-Assouline, il y a donc ces mécanismes-là qui existent. Dans une tribune publiée dans Le Monde, l'économiste Christian de Pertuis appelait de ses voeux à la création d'une taxe carbone mondiale pour éviter justement ces disparités. Est-ce que c'est faisable selon vous ? Alors, c'est ambitieux, on peut le dire.
Alors, il y a assez longtemps qu'un certain nombre de nos collègues économistes plaident en faveur d'un prix du carbone unique au niveau mondial. Évidemment, ce prix du carbone n'est pas applicable dans tous les pays de la même façon. On peut penser que les pays en voie de développement auraient un coût énorme. Alors là, d'ailleurs, dans les pays en voie de développement, la taxe carbone ne serait pas régressive, mais progressive, parce que ce sont les plus riches qui ont des véhicules. Et surtout, il me semble que le contexte international n'est pas véritablement en faveur de la mise en œuvre d'une politique unifiée. Et aux États-Unis, il ne faut pas oublier, comme je le dis souvent à mes étudiants, que le mot taxe n'est supporté que dans l'expression tax cut.
Frédéric Rennes, vous avez 10 secondes si vous souhaitez réagir sur ce sujet.
Non, effectivement, un prix du carbone unique, ce n'est pas du tout réaliste, puisque justement, on a parlé qu'il fallait, il y avait des besoins d'exemption pour certaines catégories. Donc, je pense que ce n'est pas du tout d'actualité de vouloir penser à ça. Ce serait l'idéal dans un monde idéal.
Je conseille quand même la lecture de cette tribune pour celles et ceux que cela intéresserait. Merci beaucoup à tous les deux, Frédéric Rennes et Mireille Chirolu-Assouline, d'avoir participé à cette émission.